suite de cet exposé, je repasse donc la parole à Michel Gondelet.
Alors, le corps médical le dit et le répète, faire du sport aide à se sentir bien, à être en bonne santé, diminue les risques de maladies cardiovasculaires et par là même prolonge l'espérance de vie. Mais pas le sport à haut niveau. Aujourd'hui, la réussite sportive est pour des dizaines, pour des centaines de millions de jeunes et classes populaires à travers le monde entier, le principal, voire le seul moyen d'échapper à la vie d'exploitation et de misère que leur réserve la société capitaliste. Du coup, tous les moyens sont bons pour parvenir au meilleur niveau, fût-ce justement au péril de la santé. C'est une des raisons du dopage. Il existait déjà dans l'Antiquité et le sport n'en a pas le monopole. Mais le sport moderne de compétition, combiné au progrès de la science, l'a en quelque sorte industrialisé. En 1896, après avoir participé au Bordeaux-Paris, le cycliste gallois Arthur Linton décéda de doping, comme on disait alors. Aux Jeux Olympiques de 1908, le vainqueur du marathon s'effondra plusieurs fois pendant la course, tout en dégageant une forte odeur de strychnine. Dès la création du Tour de France en 1903, le dopage était la règle. En 1924, le journaliste Albert Londres raconta sa rencontre avec deux coureurs, les frères Pélissier, après leur abandon. Je cite. « Vous n'avez pas idée de ce qu'est le Tour de France, explique Henri Pélissier. C'est un calvaire, nous souffrons sur la route, mais voulez-vous savoir comment nous marchons? Tenez, de son sac, il sort une fiole. Ça, c'est de la cocaïne pour les yeux. Et ça, du chloroforme pour les gencives. Et des pilules, voulez-vous des pilules? Les frères en sortent trois boîtes chacun. Bref, dit Francis, nous marchons à la dynamite. Après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les amphétamines, les principaux excitants utilisés par les armées pendant la guerre, qui se diffusent chez les sportifs. Laissez-moi tranquille, tout le monde se dope, expliquait Jacques Anquetil, cinq fois vainqueur du Tour de France. Les contrôles eux-mêmes ne commencèrent qu'en 1966 et n'empêchèrent pas le décès en direct du champion britannique Tom Simpson, dopé aux amphétamines sur les pentes du Mont Ventoux en 1967. Les stéroïdes, qui permettent de développer la masse musculaire, l'endurance, d'augmenter la vitesse de guérison après une blessure, remplacent progressivement les amphétamines à partir des années 60. La plupart des haltérophiles, des coureurs de fond, des lanceurs de poids et des nageurs y ont recours pendant les années 70. La République démocratique allemande, qui avait fait du sport une vitrine politique, parvint ainsi à avoir les meilleures nageuses au monde dans les années 70 et 80, en construisant des casernes sportives et en soumettant les athlètes à de véritables expériences médicales. Elle injectait de la testostérone, la principale hormone sexuelle mâle, et par ailleurs stéroïde, à des sportifs des deux sexes, des filles en particulier, dès l'âge de 10 ans. Les performances étaient au rendez-vous, les conséquences médicales aussi, blessures fréquentes, cancers, mort prématurée. Quelques 10 000 athlètes ont ainsi été dopés, souvent à leur insu. Les médias occidentaux ont largement dénoncé cette industrie du dopage. Mais l'Union soviétique et la RDA n'en avaient pas le monopole. Et le sport-spectacle repose sur le dopage. Pour le Tour de France cycliste, c'est presque un lieu commun de le dire, vu le nombre de coureurs et de vainqueurs qui ont été pris la main dans le sac. Plusieurs équipes appartenant à des entreprises fonctionnent comme des écuries dont les coureurs sont les chevaux de course. Depuis la guerre, la plupart des cyclistes vainqueurs du Tour de France sont morts avant 60 ans, en général de cancer. Et si le cyclisme est en quelque sorte la locomotive du dopage, il n'en a pas le monopole, tant s'en faut. L'athlétisme est émaillé de scandales, comme l'affaire Balco en 2003, qui révèle toute une industrie autour des produits dopants d'un laboratoire pharmaceutique américain, et a impliqué de nombreux athlètes, dont la sprinteuse Marion Jones. Quant au football américain, Alors que, aux États-Unis, l'espérance de vie est en moyenne de 77 ans, elle n'est que de 55 ans pour les joueurs professionnels, 52 ans même pour les défenseurs, qui sont particulièrement musclés. Dans le cadre de la compétition dans la société capitaliste, la lutte contre le dopage est vouée à l'échec. L'innovation en matière de produits dopants progresse plus vite que les techniques de détection. Et les plus grands scandales, comme l'affaire Festina pour le Tour de France 1998, n'ont pas éclaté grâce au contrôle, mais grâce à des enquêtes de police. Aux stéroïdes se sont ajoutées dans les années 90 les biotechnologies, notamment l'EPO, qui permet d'augmenter l'endurance. Et, entre les thérapies cellulaires, la génétique et les différents produits masquants, le dopage a de beaux jours devant lui. Et même dans les sports, le dopage n'est pas un élément essentiel. Le haut niveau a souvent des effets néfastes pour le corps. Ne parlons même pas de sports comme le sumo, où les lutteurs doivent s'engraisser pour combattre et meurent entre 60 et 65 ans, soit plus de 10 ans avant la moyenne des Japonais. Ni des boxeurs, dont 200 sont morts au cours des 30 dernières années des suites des coups reçus. Plus généralement, s'entraîner à la dure, 3 heures, 4 heures, 6 heures par jour, n'a aucun intérêt pour la santé ou le bien-être, sans parler du frein que cela représente pour l'épanouissement d'enfants qu'on soustrait parfois à l'école et à tout ce qu'elle peut apporter. Mais cela a un sens. Dans le cadre du sport de haut niveau, où chaque seconde, chaque dixième de seconde gagnée peut être synonyme de victoire et donc de prestige et de gains considérables. Une enquête a montré que 38% des anciens des Jeux Olympiques de 1972 et de 1992 souffraient ensuite de pathologies. Séquelles articulaires, troubles musculo-squelettiques, anorexie et boulimie, problèmes de dos, et j'en passe. Comme bien des travailleurs manuels, les athlètes de haut niveau exposent leur corps à une usure prématurée. Un ancien champion explique, je le cite, « Le tir m'a rendu sourd. Il tirait 60 000 coups de carabine par an. » Il est de bon ton de rejeter cette responsabilité sur les sportifs eux-mêmes. Mais en fait, ils sont d'abord victimes de l'exploitation, même quand ils sont bien payés, ce qui n'est le cas que d'une petite minorité d'entre eux. Les dirigeants du monde sportif qui sont prêts à multiplier les rencontres pour accroître les recettes, les entreprises qui font de l'argent avec le sport et les sportifs, et de façon plus générale, la société capitaliste qui met la compétition au sommet de ses valeurs, sont les premiers responsables de cette fête. Le sport est corrompu par l'argent. Le dire est non seulement banal, mais même naïf, car cela revient à supposer qu'une activité humaine aussi importante pourrait échapper dans le système capitaliste au rapport marchand. Au début du XXe siècle, c'est au nom de cette supposée pureté du sport que les tenants du mouvement olympique défendaient l'amateurisme. Mais cette posture ne s'est pas maintenue. En Europe, le football et le cyclisme échappèrent les premiers à cette règle et se professionnalisèrent au début du XXe siècle, sous l'égide d'industriels qui suivaient une autre logique. Certains voyaient dans le sport un moyen de gagner de l'argent, et d'autres aussi un intérêt social et politique rassemblé sous les couleurs d'un club, ouvrier et patron, exploiteur et exploité. Ce fut le cas en Grande-Bretagne, où le football fut professionnel dès les années 1880, mais aussi en France au début du XXe siècle. Le fondateur du Racing Club de Paris voulait ainsi que les jeunes travailleurs aillent au sport plutôt que, disait-il, au cabaret pour s'occuper de politique et fomenter des grèves. Aussi, nombre de clubs étaient-ils marqués par cet esprit paternaliste. Par exemple, celui de la Société Générale, créée en 1903, ou bien le Football Club Sochaux-Montbéliard, fondé par le directeur de Peugeot en 1928, ou encore l'Association Sportive de Saint-Étienne, à l'origine une section football, vêtue aux couleurs vertes de l'entreprise Casino, créée par Geoffroy Guichard, qui a aussi laissé son nom au stade de la ville. Mais ces activités étaient encore artisanales par rapport à l'industrie qui est devenue le sport aujourd'hui. Un tournant a eu lieu dans les années 1980, avec la diffusion des pratiques sportives, mais aussi la déréglementation, quand la classe capitaliste capitaliste à chercher à tirer le meilleur profit d'un secteur en pleine croissance. C'est alors que le sport de haut niveau s'est intégralement converti au mécanisme du marché. Création de sociétés commerciales, cotation des clubs en bourse, privatisation du financement, libéralisation de la circulation des athlètes professionnels. C'est alors que l'olympisme a complètement renoncé à l'amateurisme. Dans le football, le plus populaire des sports européens, le changement a été spectaculaire, par exemple en Grande-Bretagne. Dans les années 80, les clubs, souvent exploités par des patrons locaux, tiraient l'essentiel de leurs recettes des entrées au match. Les spectateurs étaient littéralement parqués, debout pour la plupart, dans de vieux stades, au mépris des règles élémentaires de sécurité. Il était alors de bon ton de fustiger le hooliganisme, ces bandes de supporters violents qui venaient au stade pour la bagarre, comme ceux de Liverpool, qui furent à l'origine, en 1985, de la mort de 39 personnes au stade du Heysel à Bruxelles. Les hooligans étaient une réalité, qui n'a d'ailleurs pas disparu. Mais plus encore que leur violence, c'était la soif de profit et la vétusté des stades qui tuaient. En 71, 66 spectateurs furent tués par l'effondrement d'une tribune défectueuse à Glasgow. En 85, 56 personnes moururent à Bradford dans l'incendie d'une tribune en bois sur laquelle on avait laissé s'accumuler les déchets, tandis que plusieurs issues de secours étaient condamnées. En 89, 96 spectateurs furent écrasés dans une tribune de Sheffield, remplie bien au-delà de ses capacités, tandis que les pelouses étaient rendues inaccessibles par des grilles infranchissables. En France aussi, en 1992, une tribune provisoire, construite au mépris de toutes les règles de sécurité, au stade de Furiani à Bastia, s'effondra et fit 18 morts. Dans les années 90, le football britannique s'est transformé. On a rénové les stades et interdit les places debout. Le prix des places a été démultiplié. Le public jeune et populaire a ainsi été remplacé par des spectateurs pouvant payer 50 euros pour un match. Une nouvelle ligue a été créée. Elle vendit les droits de retransmission télévisée à un empire de presse, le groupe Murdoch, et il fallut désormais s'abonner à une chaîne payante pour voir les matchs à la télé. Les clubs sont rachetés par des investisseurs, ils sont cotés en bourse, leurs budgets sont décuplés. Depuis l'arrêt Bosman, qui a libéralisé les transferts en 1995, ils achètent à prix d'or les meilleurs joueurs et entraîneurs. Les clubs deviennent la propriété de richissimes hommes d'affaires, des milliardaires américains pour Manchester United ou Liverpool, le magnat russe des affaires Abramovich pour Chelsea, ou un chèque d'Abu Dhabi pour Manchester City. Ils en attendent un retour sur investissement, au sens large, car il s'agit parfois aussi de s'acheter une notoriété. C'est ainsi qu'en Italie, Silvio Berlusconi, entrepreneur dans le bâtiment et les médias, alors inconnu, a acquis une popularité à partir de 1986 en présidant le club Milan AC, dans lequel il a investi pour en faire une équipe titrée. Il a ensuite utilisé cette popularité pour se lancer en politique, avant d'accéder à la présidence du Conseil italien en 1994, puis de nouveau en 2001 et en 2008. De ce côté-ci des Alpes, l'homme d'affaires Bernard Tapie n'a pas essayé autre chose. En prenant, en 1986, la tête du club le plus populaire, l'Olympique de Marseille. Après quelques succès footballistiques, Tapie se lança ensuite en politique, avec l'aide de Mitterrand. Il fut député, ministre de la ville, tête de liste aux élections européennes, et convoita un temps la mairie de Marseille. Mais ce capitaliste escroc, dont le Parti Socialiste avait fait un héros, se prit les pieds dans le tapis. Pour éviter les insupportables aléas du sport, il avait coutume d'acheter des matchs, ce qui finit par se savoir en 1993 et le mena au tribunal et même brièvement en prison. Bien sûr, le sport, ce n'est pas que de l'argent, et heureusement. Il y a notamment tous les éducateurs sportifs, les bénévoles qui font vivre tant bien que mal des clubs et donnent de leur temps de façon désintéressée pour transmettre leur passion et parfois des valeurs aussi à des plus jeunes. Mais même ce secteur amateur se trouve intégré d'une façon ou d'une autre, à un système tourné vers la compétition et le profit. Le sport représente maintenant 3% du commerce mondial. Par rapport à l'armement, à la finance ou à la drogue, cela reste peu de choses. Mais c'est quand même 600 milliards d'euros à l'échelle du monde, essentiellement réalisés aux États-Unis et en Europe. Et comme en outre, ce secteur croît de 6 à 10% par an, Il aurait été étonnant que les bourgeois ne s'intéressent pas à ce fromage pour plusieurs types d'investissements. Il y a d'abord les capitalistes des médias, qui ont compris que le sport-spectacle pouvait être un très bon vecteur d'audience, comme on dit dans ce milieu. Ce n'est pas nouveau. Le journal Loto créa ainsi le Tour de France cycliste pour doper ses ventes. Un siècle plus tard, Loto, compromise dans la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, s'appelle l'Équipe. Loto et l'Équipe ont exercé un confortable monopole sur la presse sportive quotidienne. Mais ce qui a changé depuis les années 1980 est l'échelle des enjeux financiers. Une compétition internationale comme les Jeux de Pékin a drainé plus de 4,7 milliards de téléspectateurs, à raison de 12 heures chacun en moyenne. La Coupe du Monde de football ne vient pas loin derrière, et la finale du 11 juillet devrait être regardée par 2 milliards de personnes, plus qu'aucun autre événement au monde. Les droits de retransmission télévisée sont donc l'objet de négociations serrées et de contrats juteux. Entre 80 et 2000, ces droits ont été multipliés par 15. Pour les JO de 2008, ils ont atteint 1,7 milliard de dollars. Ensuite, ces droits sont amortis grâce à l'audience que génère la retransmission des épreuves et au prix auquel sont vendues les coûteuses minutes de publicité qui encadrent les matchs. Des firmes comme Canal+, comme le groupe Murdoch, comme l'entreprise de Berlusconi Fininvest, se sont construites dans les années 80 grâce à cette manne. Pour augmenter les recettes de la télévision, les règles de nombreux sports ont été modifiées, sans oublier les horaires des rencontres. L'audimat et ce qu'il rapporte valent bien que les étapes du Tour de France démarrent à midi. Certains groupes de médias ont directement investi dans des clubs ou des épreuves. Le groupe Amaury, qui possède notamment l'Équipe, le Parisien, Aujourd'hui en France, France Football, Vélo Magazine, organise ainsi de nombreuses épreuves, comme le rallye du Dakar, où quelques motards et automobilistes de pays riches vont en Afrique ou en Amérique latine se payer des sensations fortes en prenant des risques pour les habitants au passage. Ou encore le très lucratif Tour de France, la troisième compétition la plus regardée au monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. À lui seul, le Tour rapporte l'essentiel de ses bénéfices à la filiale sport d'Amaury, laquelle atteint régulièrement 20% de taux de profit. D'autres entreprises, comme le marchand d'armes Lagardère, le négociant Dreyfus, ont aussi investi dans le sport. Il y a ensuite les fabricants d'articles de sport. Le groupe allemand Adidas fut le premier, dès les années 20. Mais de nombreux autres se sont lancés, comme l'allemand Puma ou l'américain Nike. Et puis, de nombreux capitalistes ont transformé les sportifs en hommes sandwich et les enceintes sportives en gigantesques panneaux publicitaires. Coca-Cola a investi très tôt dans le sport international, notamment afin de pénétrer de nouveaux marchés. C'est avec les Jeux d'Amsterdam en 1928 que Coca pénétra l'Allemagne et avec ceux de Tokyo en 1964 qu'elle pénétra le marché japonais. En 1996, elle obtint même que les Jeux soient organisés dans la ville de la maison mère, à Atlanta, aux États-Unis. On a appelé ces Jeux les Jeux Coca-Cola. Les Jeux de Pékin, en 2008, étaient attendus par Coca, comme par d'autres sponsors, avides de voir se développer ce marché potentiellement immense. Les Chinois ne buvant que 5 petits litres de Coca, loin derrière les 95 litres annuels des Américains. Des multinationales comme Visa, McDonald's, Mastercard, IBM, Mobile, Philip Morris, Panasonic, Fuji, Samsung, Philips, Canon, et j'en passe, se sont engouffrés dans ce secteur du parrainage sportif. Cette chasse de la poule aux œufs d'or s'est accélérée dans les années 80, sous la houlette de l'ancien ministre franquiste Juan Antonio Samaranch, à la tête du CIO, et de son allié Avelange à celle de la FIFA. Autant dire que, quand les instances internationales du sport attribuent des compétitions à de nouveaux pays ou de nouveaux continents, la soif de conquête de nouveaux marchés joue un rôle autrement plus déterminant que l'universalisme prétendu des 5 anneaux olympiques et autres fadaises. Le sport business est aussi, à sa manière, un secteur où les pays riches pillent le tiers-monde. On sait combien les équipementiers de sport exploitent la main-d'œuvre bon marché des pays pauvres, comme le Pakistan, l'Indonésie, le Vietnam ou la Chine, où la fabrication d'une paire de chaussures vendue 60 dollars en Occident ne coûte pas plus d'un dollar. Les pays riches pillent aussi les talents sportifs. C'est par exemple le cas du football, où sévit un véritable trafic de travailleurs immigrés. Les jeunes Africains sont attirés en Europe avec les carrières des stars africaines du football comme miroir aux alouettes. Une fois sur place, la réalité est tout autre. En France seulement, ce sont au moins 1200 jeunes qui, à partir de 13 ans, se sont ainsi retrouvés sur le carreau, voire à la rue. Des agents véreux sont dénoncés, mais en fait, ce système ne fonctionne que parce que, dans l'économie de marché, les footballeurs, y compris ceux des pays pauvres, sont des marchandises que les clubs convoitent et dont ils se débarrassent quand il n'y a pas de retour sur investissement. Et puis, il y a l'immense marché dérivé du sport-spectacle, comme les paris. C'est une véritable industrie. En France, un changement législatif vient opportunément d'autoriser les paris en ligne, juste à temps pour le mondial. Il s'agissait surtout de donner aux groupes disposant d'une force, d'une surface financière notable, Bouygues, mais aussi Bolloré, Lagardère, le droit d'exploiter ce filon. Un filon prometteur, puisqu'on prévoit que le chiffre d'affaires des seuls paris sportifs devrait doubler d'ici 2 ans pour atteindre 3 milliards d'euros. Le pouvoir actuel est donc généreux avec ceux qui font du fric avec le sport. Mais, en janvier dernier, interrogé sur la double rémunération d'Henri Proglio, PDG d'EDF et de Veolia, Sarkozy s'est révolté. « Ce qui me choque, a-t-il dit, c'est le salaire mirobolant de certains footballeurs ou de certains sportifs. » Fin de citation. Et il est de bon ton parmi les politiciens de critiquer le salaire des sportifs. Regardons-y de plus près. Il y a certes en France 5 sportifs dont les salaires dépassent 5 millions d'euros par an. Le salaire moyen annuel brut des joueurs de Ligue 1 de football est de 500 000 euros. Des revenus certes confortables, mais qui s'expliquent par ce que ces sportifs rapportent aux clubs, aux sponsors, aux chaînes de télé, aux fabricants de produits dérivés, etc. Et puis, c'est la partie émergée de l'iceberg. La grande majorité des quelques 7000 sportifs professionnels français vivant avec des salaires de 1000 à 2000 euros par mois pour des carrières qui dépassent rarement une dizaine d'années et encore quand ils ne se blessent pas de façon irrémédiable. Le sport professionnel est donc très inégalitaire et même les mieux payés au monde gagnent des miettes en comparaison des actionnaires des grands groupes capitalistes pour lesquels travaillent Proglio et autres Sarkozy. Thierry Henry gagnerait au total 17 millions d'euros par an. Mais il n'a hérité de personne, n'exploite que le ballon rond. Et la fortune d'un Muliez, construite par l'exploitation des salariés d'Auchan et autres magasins Decathlon, est estimée, elle, à 15 milliards d'euros, comme celle du patron du luxe, Bernard Arnault, soit 1000 années d'activité d'un Thierry Henry au meilleur de sa forme. Mais... Amaury, Muliez, Warneau ne sont pas l'objet des critiques de Sarkozy et autres, qui pointent du doigt les sportifs pour mieux détourner l'attention des capitalistes en général, ceux du sport en particulier. En France, la libéralisation du secteur sportif est en bonne voie, même si les défenseurs du foot business regrettent que les choses n'aillent pas assez vite et qu'une partie des recettes des droits de télévision continue de revenir aux petits clubs, un manque à gagner que certains jugent insupportable. C'est par exemple le cas de Jean-Michel Aulas, patron d'une entreprise de logiciels, président de l'Olympique lyonnais, 262e fortune française et ami de Sarkozy. Aulas se targue d'avoir transformé l'OL de PME en holding prospère et victorieuse. En 2006, il a obtenu un changement législatif pour introduire son club en bourse afin de lever des fonds pour construire OL Land, un nouveau stade de 60 000 places à l'est de Lyon, avec centres de loisirs, hôtels, commerces et restaurants. Quel dommage, dit Aulas, que le spectateur français ne dépense que 15 euros quand il va au match, alors qu'il en dépense 50 outre-Manche. Aulas est pour le libéralisme, mais il compte d'abord sur le soutien des pouvoirs publics. 25% des places des matchs de l'Olympique lyonnais sont achetées par la ville et par le département. Et pour le nouveau stade, les accès et la viabilisation du terrain seront à la charge des collectivités locales. Ce projet est vivement critiqué, mais son plus fervent défenseur est Gérard Collomb, le maire PS de Lyon et président de la communauté d'agglomération. À Paris, Bertrand Delanoë ne se comporte pas différemment. La ville verse chaque année 1,5 million d'euros au Paris Saint-Germain et 800 000 euros au club de rugby, le Stade français. Deux clubs qui fonctionnent comme des entreprises privées, les investisseurs américains Colony Capital et Morgan Stanley pour le PSG. Delanoë veut aussi faire reconstruire le stade Jean Moin dans le 16e arrondissement, géré par une association liée au groupe Lagardère. Ce stade serait trop exigu pour accueillir les matchs du Stade français. Le nouveau stade accueillerait alors une quinzaine de rencontres professionnelles par an pour une trentaine de joueurs. Les amateurs, les 3000 collégiens et lycéens qui utilisent le stade actuel, en seraient exclus. Les parents d'élèves et les utilisateurs ont beau s'opposer au nouveau stade, Delanoë fait le forcing. Cet argent serait pourtant bien utile à la construction ou à la rénovation d'équipements accessibles à tous, à l'embauche d'éducateurs, etc. La gauche peut ensuite dénoncer le sport spectacle et le rôle qui joue l'argent quand elle est aux affaires. Elle s'incline devant ceux qui en tirent profit. En fait, le financement public de stades privés est devenu la règle. En France, ce sont les collectivités locales qui construisent et rénovent les équipements sportifs, ensuite loués, souvent à bas prix, par les clubs. Quand il s'agit d'associations à but non lucratif, où l'essentiel des entraîneurs sont bénévoles, cela a un sens. Mais les clubs professionnels de Ligue 1 sont aujourd'hui des entreprises tout ce qu'il y a de plus privé. Un de leurs objectifs est d'accroître leur chiffre d'affaires et de pouvoir ainsi rivaliser avec les grosses écuries anglaises, espagnoles, allemandes ou italiennes. Les stades jouent un rôle essentiel dans les recettes. Et comme en Angleterre, il est lucratif de les transformer en centres commerciaux. Un bon moyen de construire ou de rénover des stades est d'organiser une compétition internationale. C'est le sens de la candidature française à l'Euro de foot de 2016. Et les grandes villes se bousculent au portillon pour être de la fête. Comme on dit, l'opération a réussi et le foot professionnel français, qui pèse environ 1 milliard de chiffre d'affaires, trouvera ainsi les moyens de mettre la main sur 1,7 milliard venus des caisses des collectivités locales. Les entreprises du bâtiment et des travaux publics y trouveront assurément leur compte. Un jackpot pareil, en période de crise, il fallait le faire. Alors, en résumé, nationalisme, racisme, sexisme, violence, mercantilisme, exploitation, le sport porte toutes les tares de la société capitaliste. Que pourraient donc en faire les communistes que nous sommes? Autrement dit, le sport pourrait-il être autre chose que ce qu'il est aujourd'hui? Si demain les travailleurs s'emparaient du pouvoir, l'usage qu'ils feraient du sport serait différent de ce que purent faire les bolcheviks, selon le niveau de développement, de culture, de santé publique, selon les équipements aussi. Et nous ne saurions donner de réponses précises, détaillées, à la question de savoir comment les hommes de l'avenir utiliseront le sport. Une société débarrassée de l'exploitation renoncerait-elle à certains sports? Compterait-on toujours les buts et les points? Nous n'en savons rien. Mais on peut dire ce que le sport ne devrait pas être, et à partir de là réfléchir à ce qu'il pourrait représenter. Aujourd'hui, malheureusement, le sport est plus un spectacle qu'une pratique. On peut bien sûr prendre un plaisir justifié à regarder une rencontre de qualité. Mais dans le sport, comme dans tant d'autres domaines, la société actuelle pousse à la passivité. D'un côté, en l'absence de perspectives sociales et politiques, les milliers de jeunes font tous leurs espoirs sur la réussite sportive, au péril de leur santé, voire de leur vie. Bien d'autres cherchent, ne serait-ce que le temps du spectacle, au stade ou devant un écran de télévision, à échapper à la condition que réserve la société capitaliste. Et cela est vrai des jeunes des classes populaires dans les pays riches comme dans les pays pauvres. Dans cette mesure, le sport est un opium du peuple. Et à côté de cela, toute une partie de la société ne pratique guère de sport et souffre des multiples affections causées par l'activité professionnelle ou simplement la sédentarisation. Alors, les communistes ne sont pas contre le sport. Mais dans le cadre de la société capitaliste, espérer qu'il puisse complètement échapper au travers de la concurrence, du nationalisme, du racisme ou de la misogynie est illusoire. Bien sûr, les communistes qui font du sport peuvent et doivent le faire différemment de ce que la société bourgeoise véhicule. Au pouvoir, aurait-il une politique sportive différente? Assurément, même s'il est illusoire de chercher à la préciser. Si les travailleurs dirigeaient la société, ils œuvreraient à débarrasser le sport de tout le fardeau de nationalisme et de vieillerie qui le caractérise, à rendre le sport accessible à tous. Le temps libre qu'une société socialiste dégagerait pour la satisfaction des besoins humains permettrait peut-être à des milliards de femmes et d'hommes d'avoir accès au sport dont ils sont aujourd'hui privés. Les moyens humains et matériels disponibles devraient être consacrés à la pratique équilibrée par tous ceux qui le souhaiteraient, et non à la pratique frénétique par une élite. Quant à l'avenir plus lointain, d'une société fonctionnant sur les bases communistes, où toute la vie sociale sera réorganisée, le sport y existera-t-il toujours en tant qu'activité spécifique? Ce qui est sûr est qu'il n'existera plus comme activité professionnelle ou de haut niveau. Mais la distinction même entre temps de travail et temps libre ne serait sûrement pas la même que maintenant. Sans doute qu'une femme ou un homme pratiquerait au cours de sa vie un ensemble d'activités variées où les activités physiques s'intégreront dans une existence qui ne sera pas centrée, comme aujourd'hui, sur le travail productif. Ce qui est sûr est qu'alors le sport, si tant est qu'il existe encore sous une forme structurée, ne véhiculera plus l'esprit de compétition, le nationalisme, le racisme ou la misogynie, mais exaltera le sens de la collectivité et le sentiment d'appartenir à une seule et même humanité. Ne servant plus le profit privé, il ne participera plus à l'abêtissement, voire aux affrontements entre hommes de la même classe sociale. Et il pourra contribuer au progrès général d'une condition humaine libérée du carcan capitaliste.